Bienvenue au Polysécur épisode PME. Je suis accompagné de Nicolas, Cindy et Dominique. Comment allez-vous?
Super bien.
Top shape.
Good, good.
Grande forme.
Il faut la forme, sinon c'est pas drôle. On a terminé le dernier épisode sur tout ce qui était question d'argent. On a parlé aussi des contrats. C'est important d'attacher tout ça ensemble parce que le MSP est quand même une business. Ils sont là pour être en santé financière. C'est d'ailleurs très important qu'ils soient en santé financière parce qu'ils ne sont pas pour y avoir des problèmes. Donc, c'est un échange qui est fait. Et l'établissement de ces éléments-là, notamment dans le contrat, sont très importants pour que vous ayez un bon service parce qu'il y a un coût à avoir un bon service. Et comment on aborde ça pour que votre fournisseur soit capable d'être viable financièrement et donc de vous accompagner longtemps. Je vais vous laisser passer avec ça.
Je vais commencer avec une question, gars. Je voudrais votre opinion à tous les trois. Parce qu'il y a quelques semaines, je me suis fait approcher en sollicitation. J'ai eu un... Tous les trois, oui, je sais compter les termes. Qui compte, c'est nous. Il y a quelques semaines, j'ai eu un message vocal sur mon téléphone d'une compagnie, d'un MSP qui me sollicitait pour m'offrir en fait le deal du siècle. Et je pense vraiment les contacter parce que c'est juste tellement intéressant. Leur atout, c'est qu'ils sont les moins chers au Québec et ils me proposaient des services de MSP à 2$ de l'heure. Je saute dessus, right?
C'est vraiment pas cher. Et donc, tu risques d'en avoir pour ton argent, c'est-à-dire la valeur de 2$. OK. Il faut pas se leurrer, même si dans le MSP, son objectif, c'est d'optimiser, c'est d'avoir des mêmes recettes de cuisine, parce que tout le monde sait que quand on est capable de dupliquer la même chose, ben c'est là où on optimise, c'est là où on devient efficient, etc. Mais tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de la compétence, et puis faut que ça fonctionne. Je rappelle que quand on choisit un MSP, on sait pas, on veut pas, on peut pas, mais on compte sur lui parce qu'il fait rouler la partie IT de la business. Donc il faut choisir son bon prestataire. On parlait de prix, on échangeait un peu sur la partie de prix. Il faut pas avoir quelque chose en dessous de 100$ par mois pour faire de la gestion d'équipement. Si vous êtes en dessous de ça, c'est mécanique.
Par endpoint, tu l'as pas spécifié.
Par entreprise, c'est pas pire comme budget.
Par endpoint. $100 par mois. C'est une métrique qu'il faudrait garder pour tourner un peu autour de ça parce que mécaniquement, faut remplacer le nombre de personnes IT que vous avez dans l'entreprise pour faire ça. Donc, vous faites juste un transfert d'une personne que vous avez chez vous sur un service que vous faites à l'extérieur. Donc, c'est une métrique qui est pas folle, qui permet d'avoir une base de comparaison pour se dire, voilà. Après, il faut regarder ce qu'il y a dans la partie contractuelle. Parce que si c'est juste payé dans une tirelire puis vous savez pas ce qui se passe, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Ça se trouve, il y a un super contrat à 2$ qui dit à 2$, c'est ce qui me permet de pouvoir, ça t'autorise, toi, monsieur le client, à m'appeler. Et ça, c'est le prix pour 2$, c'est le moins cher, effectivement. Ça t'autorise à m'appeler, ça m'autorise pas à intervenir, ça m'autorise pas à faire quelque chose, mais au moins, tu peux m'appeler. Donc, tu vois, il faut regarder ce qu'il y a dans le contrat. On ne sait pas. Donc,
Qu'est-ce qu'un contrat MSP, justement, devrait inclure? Je ne parlais pas de légal et de clause, mais c'est quoi les services, au final, qu'un MSP peut proposer? Qu'est-ce que je devrais m'attendre à avoir avec un contrat, on va dire, à $100 par endpoint par mois?
Je rajouterais là-dessus, est-ce qu'il y aurait du haut de gamme puis du milieu de gamme ou...
Il y a toujours du milieu de gamme et du haut de gamme, effectivement. Si tu veux faire gérer tes serveurs, on l'a évoqué dans la partie de gestion des risques et de pourquoi on devrait le considérer et comment on devrait faire attention. Si tu vas mettre en place ton site transactionnel qui doit rouler 24/7, qui doit être patché, puis si jamais ton site web qui fait des transactions puis qui vend des billets, il tousse, tu veux que ton fournisseur que tu payes interviennent le plus rapidement possible dans les 2 heures, même à 2 heures du matin, ça va te coûter un petit peu plus cher que $100, mais tu vas avoir le service de je répare. Ou alors, tu vas avoir le service de qui t'appelle à 2 heures du matin pour te dire ton serveur marche pas, bonsoir, puis arrange-toi avec ça. Donc là, effectivement, ça va coûter moins cher, mais c'est toi qui vas te lever puis réparer. Donc, Oui, il faut regarder ce qu'il y a dans le contrat pour voir le niveau d'engagement, le temps de réponse, le périmètre d'intervention. Est-ce que les gens vont réparer? Est-ce que les gens vont redémarrer le service? Est-ce que les gens vont patcher? Est-ce que les gens vont corriger? Est-ce que les gens vont déployer un nouveau serveur en urgence parce que ça ne tient pas la charge, etc., etc. Donc, ça se définit dans la partie contractuelle en fonction de tes risques.
Donc, ça se matérialise comment comme service? Donc, on a le support niveau 1, on a la gestion des vulnérabilités, gestion de l'obsolescence du parc.
Oui. Tu peux avoir ça, tout ce qui va être dans le patching, effectivement.
Et puis après, Azure, AWS, le cloud.
Tout ça, ça se définit dans le contrat, puis c'est des choses que tu peux mettre. Alors, plus on en met dans la boîte magique, ben forcément, plus le trinquer, hein. On est d'accord.
Et comment est-ce que je sais ce que j'ai besoin? Parce que ça se peut que je veux pas, je peux pas et je sais pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent même pas justement c'est quoi leurs besoins. Fait que comment est-ce que je m'assure justement, c'est quoi les bonnes questions à poser ou comment savoir que le MSP que je vais contacter me propose les bonnes choses? Oui, je suis prêt à investir par exemple, mais je veux pas non plus acheter une Rolls-Royce si je vais utiliser mon char juste pour aller à l'épicerie une fois par semaine.
Mais... Soit, on échangeait, soit vous avez une personne de l'IT dans votre département, qui va gérer la partie IT, qui va être capable de dire, ben voilà les tâches qui seraient à prendre en considération, voilà les choses que moi, en tant qu'IT à l'interne, je vais me concentrer sur le déploiement de la business. Et puis, j'aimerais confier toutes des tâches qui sont maîtrisées ou qui sont peut-être récurrentes, qui doivent être faites, ben je vais l'externaliser dans mon service d'impartition. Et là, il va vous aider à sélectionner le bon partenaire. Et on parle de partenaire, hein, on parle pas fournisseur, on parle d'un partenaire. Parce que quand ça marchera pas, vous serez les deux à faire en sorte que ça marche. Donc, c'est un vrai partenaire. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir une personne IT, c'est là qu'il faut se faire accompagner avec des gens qui ont de l'expertise dans ce domaine-là pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Encore une fois, ça se base sur vos risques d'affaires. Si vous avez des risques importants, effectivement, il va falloir faire attention à tel point. C'est important que mon système il marche 24/7. Il faut trouver le fournisseur qui marche, le partenaire qui marche 24/7. Si vous dites, si ça marche pas la fin de semaine, c'est pas grave, ou faut que ce soit un peu en mode dégradé, vous allez avoir quelque chose qui va correspondre à du mode dégradé.
Ouais, ça demande vraiment une connaissance profonde de ses besoins, puis. De mon expérience, même dans des très grandes entreprises, c'est très difficile de dire chose, ton système n'est pas si important que ça, que la fin de semaine, on le remettra pas en ligne. Tout le monde dit que son système est le plus important au monde. Donc, il y a quand même une certaine maturité organisationnelle et donc de se faire accompagner par quelqu'un qui est capable de nous confronter réellement à la priorité réelle du chose et de faire l'association entre les coûts, de vouloir ce qu'on veut, parce que ça, les gens pensent que c'est gratuit. Et là, quand on a un lien direct entre le coût d'avoir du 24/7, 365 jours par année, versus la fin de semaine, c'est pas grave, la différence de coût, elle est quand même significative et il faut que ça soit démontré, notamment par le MSP, et où la personne qui vous accompagne, qui vous aide à sélectionner le bon MSP pour vous.
Prendre une comparaison, quand vous magasinez une assurance automobile, t'as envie de tous les prendre, la valeur à neuf, la franchise le plus bas possible, etc. Et au début, tu commences à t'emballer en disant « Oh, tout a l'air super intéressant. » Et à la fin, on te donne le prix mensuel. Tu manques un battement cardiaque. Tu dis « All right, ça marchera pas. » Et là, tu te reposes vraiment les questions de « J'ai-tu vraiment, mettons que si j'ai 200 piastres de plus de franchise, est-ce que c'est quelque chose qui ferait du sens? Est-ce que je suis capable de l'assumer ?» Mais souvent, justement, d'abord, on va cocher tout ce qu'on veut, que tout a l'air génial, évidemment. Mais est-ce qu'on est prêt à payer pour ça? C'est un peu la même réflexion à avoir. Oui, on veut tout. Mais au final, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Comment est-ce qu'on peut optimiser la valeur et le coût?
La partie de risque, c'est ce qui devrait... Et puis, on est des gens de sécurité, donc nous, c'est comme ça qu'on fonctionne et comme ça qu'on essaye de lire le monde dans la partie IT. On va parler, on va mettre en face le risque. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter ou non? Si on l'accepte pas, comment est-ce qu'on fait pour minimiser le risque? On va en choisissant le prestataire, le partenaire et en mettant le bon niveau. Et il y a quand même quelque chose, on parle de pricing, là, de prix à l'intérieur, dans la partie de ça, il y a quand même une arme qui reste du côté du client qui s'appelle le Service Level Agreement et pénalité. Parce que dans les contrats de MSP, on est capable d'ajouter des pénalités sur les services qui ne seraient pas faits, le support qui ne répondrait pas dans les temps, des applications de correctifs qui ne seraient pas mises dans les temps. La disponibilité, on va payer pour avoir un service qui va être 98%, 99% parce qu'il y a quelqu'un qui va réparer, qui va traiter. Et si c'est en dessous de ça, on est capable de calculer, de définir des pénalités. Ça permet d'engager tout le monde, ça permet d'engager le client à payer les factures tous les mois, mais ça permet aussi aux partenaires d'être bons tous les mois pour éviter d'avoir une petite pénalité à payer. Des fois, je dis ça, c'est comme dans le mariage, il faut être bon tous les jours. Hein, on a signé le contrat de mariage, ben il faut être bon tous les jours. Donc comme ça. Et imputable. Mais ça permet d'avoir cette relation. Au moins les règles du jeu sont claires et puis tout le monde est engagé à ce que ça fonctionne bien, à ce que ça fonctionne le mieux du mieux.
Oui. Puis je vais reboucler sur un peu la mention que Cindy a faite au début. Son chose à 2$. La réflexion, c'est est-ce que c'est outsourcé et est-ce qu'il y a un avantage à outsourcer nos TI à travers un MSP ou est-ce qu'on autorise un MSP ou est-ce qu'on nous-mêmes on décide d'outsourcer à l'extérieur du d'envoyer ça ailleurs dans l'univers parce que c'est supposément moins cher dans ces pays-là, ce qui est un peu ce qui est sous-entendu dans l'offre que tu as reçue.
Il le mettait sur le site web, j'ai mon investigation après, mais l'enjeu, c'est une compagnie québécoise et moi qui faisait justement de l'offshore. J'ai pas forcément de problème des fois à utiliser la logique là, mais d'une, c'était vraiment extrêmement peu coûteux. J'ai aucune idée de combien étaient payés les gens en arrière, parce que 2$, c'est le prix que la compagnie québécoise paye, fait qu'il y a une marge qui s'est prise là-dessus. Et ça ressemble à de l'outsourcing. C'est qu'à un moment donné, la TI, c'est quand même extrêmement important comme système. Veut-on aller confier ça à du monde où on n'a aucun contrôle dessus? Et désolé pour les traducteurs, par exemple, pour les graphistes, mais mettons que tu appelles quelqu'un qui est dans un pays où le coût de main-d'œuvre est très faible pour faire un petit logo ou pour traduire un document. Donne un document, il te le redonne. Est-ce que la qualité va être là? C'est un choix à faire. Mais tu n'es pas en train de donner des accès à tes systèmes les plus critiques. Qu'est-ce que tu sais de comment est-ce que justement l'ordinateur de la personne qui a accès, est-ce qu'elle est protégée? Qui est la personne, etc.? C'est quand même beaucoup de questions à se poser. On vous dit pas quoi faire, mais c'est des questions à se poser.
Il y a plusieurs points dans la question là-dessus. Là. L'offshoreisation, c'est pas forcément mal. Hein. Il y a des talents partout à travers la planète, des experts à travers la planète et des gens qui seront prêts à prendre soin de vos systèmes pour être engagés. Donc, en termes de compétences, il y en a partout. Et puis, on fait tous de l'offshore, même sans le savoir. Hein. Vous appelez n'importe quel support, il y a de grandes chances que vous utilisiez des services d'offshore. Puis vous le savez même pas, puis vous êtes servi pareil. Donc oui. Et puis après c'est une question d'optimisation de votre du partenaire. Qui je rappelle, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, il faut qu'il soit en santé parce que si votre partenaire qui gère votre IT est pas en santé, si lui est malade, votre système IT va être malade puis vous allez être malade par la bande. Hein. Donc ça c'est important. Donc ça, là, la première partie sur les compétences, ben oui. Puis, ça doit coûter de l'argent parce que le partenaire doit former aussi ces gens qui sont à l'offshore sur la façon de communiquer, la façon de traiter. Donc, tu sais, ça coûte de l'argent aussi. Donc, si on y va trop vers le bas, ben, ça veut dire que cette formation-là, elle sera pas faite. La contextualisation sera pas faite. Expliquer que la période des REER, c'est fou, il faut que tous les systèmes fonctionnent parce que sinon, ça marchera pas pour les impôts. C'est sûr que si c'est traité en offshore à l'autre bout du monde, ils n'auront pas la petite sensibilité, puis ils vont rebooter le serveur au moment où vous en aurez besoin. Donc, ça, il y aura de la formation qui va se faire. Et puis après, il y a le deuxième aspect qui est sur la contractualisation, puis les garanties qui sont fournies par le partenaire. S'il a une certification, un SOC 2, un ISO pour garantir ça, ben, toute la chaîne de fournisseurs doit être faite, doit être certifiée. On fait quand même confiance à son fournisseur qui fait confiance à son fournisseur, et etc. Enfin, il y a un moment donné, on est dans une notion de confiance. Et on remet ça dans une analyse de risque, et puis on peut refaire la balance entre, ben, si moi je devais fabriquer mes composants, mes CPU dans le fond du garage pour être sûr qu'ils ne soient pas faits par quelqu'un de malveillant et qu'il fasse des bêtises et que soit je... Vous embauchez une équipe d'IT, puis avec 20, 50 personnes qui soient toujours formées, puis vous allez voir que le coût risque ne sera pas bénéfique.
C'est pas si mal que ça quand c'est bien géré. Même à 2$ par à l'heure comme machin, si la valeur réelle est là, je pense que ça fait un peu un tour de ça. Ça, ça a laissé le monde un peu tranquille. Fait que sur ça, je vous remercie de ce partage-là.
On part partir sur un autre épisode de 15 minutes.
Il y a des mythes autour. On va consoler sur ces mythes-là éventuellement aussi, parce que je pense que le offshoring est un sujet aussi complexe, mais qu'on a effleuré, mais qui est quand même intéressant à considérer dans la chaîne de valeur, comme vous mentionnez. Sur ça, je vous remercie énormément.
Et merci, à bientôt.
Bye. Ciao. We'll be right back.